Bonjour à tous. Avant de commencer, je souhaiterais, au nom, je pense, de l'ensemble des participants à cette table ronde, remercier les organisateurs pour leur invitation et pour donner l'occasion d'échanger sur ce sujet qui nous intéresse tous, bon, peut-être pour des raisons différentes et d'un point de vue différent, mais donc nous les félicitons déjà pour l'organisation de la journée et pour nous avoir conviés pour discuter de ce sujet, donc qui est le point de départ d'une mesure de police. Alors, j'allais dire, la parité a été respectée. Alors, pas la parité de genre, comme vous pouvez le constater. En revanche, il est vrai que cette table ronde est équilibrée parce qu'on y trouve deux universitaires et deux praticiens, et on trouve deux pénalistes et deux publicistes. Alors, c'est un petit peu schématique, puisqu'en réalité, le parcours de chacun, les appétences de chacun font que la distinction est un peu troublée, celle-ci aussi, même au niveau de nos formations respectives. Mais il est vrai que l'équilibre est assez préservé. Et ce qui va être intéressant, c'est que je pense que nos cultures respectives vont faire que les débats vont être animés, pour ne pas dire vifs, enfin, je l'espère pas. Alors, l'objectif de cette première table ronde est de déterminer si cette distinction entre police administrative et police judiciaire a encore un sens au regard du point de départ, c'est-à-dire au regard de la situation factuelle qui peut justifier l'exercice de la contrainte, contrainte qui est la caractéristique de la mesure de police. Alors, comme l'indique le programme, il existe différentes mesures de police, des mesures de vérification, des mesures de recherche, des mesures de surveillance. Donc, nous avons la tâche d'aborder, alors sans entrer en profondeur pour chacune de ces mesures, d'examiner le point de départ de ces différentes mesures et de voir comment elles s'articulent avec le point de départ des mesures de police judiciaire. Alors, pour ce faire, nous allons peut-être commencer par un propos plutôt général, une discussion sur quel est le point de départ de la mesure de police, quelle qu'elle soit, indépendamment de son qualification de police judiciaire, de police administrative. Pardon. Puis ensuite, peut-être s'intéresser davantage aux différents points de départ pour chacune des mesures, qu'elles relèvent de l'ordre de la police judiciaire ou de la police administrative, et ensuite faire une comparaison pour voir ce qu'il en est de cette distinction. Alors, peut-être commencer donc sur un propos plutôt général sur ce qui justifie la mise en œuvre d'une mesure de police. Me semble-t-il, et je vais laisser la parole à chaque intervenant, que ce point de départ doit être apprécié au regard de la finalité de la mesure de police, à savoir l'ordre public. Ordre public qui est finalement le ciment entre la police administrative et la police judiciaire. Mais peut-être que cet ordre public n'est pas le même selon la mesure considérée. Peut-être que cet ordre public est le même, mais sera protégé de manière différente. Il me semble que c'est là l'une des premières questions, l'un des premiers points qu'il convient d'aborder. Donc pour ce faire, je vais laisser la parole à chacun des intervenants. Peut-être commencer par l'ordre public du point de vue du droit administratif. Et je me tourne vers vous, Monsieur Slama.
Alors, il me semble qu'il y a une évolution depuis un certain nombre d'années. L'évolution, moi, je la placerais plutôt dans une décision qu'on n'a pas encore mentionnée, qui est la décision solidarité des Français sur la fameuse soupe au cochon qui a précédé Agriff et Dieudonné. Vous savez, c'est cette affaire dans laquelle il y avait une association d'extrême droite qui voulait distribuer des soupes sans domicile fixe, mais en prenant obligatoirement du porc, donc qui avait une finalité discriminatoire. C'était à la fois une infraction pénale, le fait de commettre une discrimination dans l'accès à un bien ou à un service. Mais par ailleurs, dans cette affaire, c'était le préfet de police qui avait interdit ces manifestations, ces distributions sur la voie publique, sur le fondement du trouble à l'ordre public que ça pouvait représenter. Et l'ordonnance rendue par le Conseil d'État nous dit que c'est le risque de réaction lié à la discrimination discriminatoire de soupe qui portait atteinte à l'ordre public. Et vous voyez ici, on avait déjà cette évolution de l'ordre public dans quelque chose qui appréhende de préventif prédictif. Parce que je pense que l'évolution essentielle de ces dernières années, c'est qu'il y a l'idée qu'il y a un risque de commission d'une le risque de commission d'une infraction ou de récidive constitue un trouble à l'ordre public qui justifie une mesure de police administrative préventive. Dans l'affaire Dieudonné, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il risque de recommencer dans un spectacle à tenir le même type de propos. Et donc, sur le fondement de cette conception de l'ordre public, on permet d'interdire son spectacle. Et cette logique-là s'est affirmée et a été développée massivement pendant l'état d'urgence et depuis la loi SILT du 30 octobre 2017. je prends pour l'état d'urgence, il faut se rendre compte de ce que c'est l'état d'urgence. Hein. L'état d'urgence donc, a été appliqué du 13 novembre 2015 au 1er novembre 2017. Ça représente 10 000 mesures de police individuelles, au moins. Essentiellement des perquisitions administratives, une grosse moitié, 5 000, c'est des perquisitions administratives, des assignations à résidence, des contrôles d'identité sur le fondement d'arrêtés préfectoraux. Là, on ne connaît pas en fait le nombre de contrôles d'identité, on connaît le nombre d'arrêtés permettant des contrôles d'identité, et aussi des zones de protection, des saisines d'armes, etc. Et ces 10 000 mesures, en fait, leur particularité, dans le cadre de mon ancien laboratoire, le CREDOF, on a collecté les 800 décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel pendant l'état d'urgence. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une évolution de l'ordre public et de la façon dont les mesures sont prises. Donc, la façon dont elles sont prises, il y a un élément essentiel, c'est la note blanche. On pourra peut-être en reparler, mais c'est l'instrument qui n'est pas un instrument de preuve, mais qui est l'instrument qui déclenche la mesure de police administrative, qui permet l'assignation, les perquisitions, etc. Et assez souvent, quand on regarde attentivement les décisions, dans la plupart des cas, les personnes qui sont assignées ou perquisitionnées auraient pu faire l'objet de poursuites pénales, mais le parquet n'a pas assez d'éléments pour les judiciariser. Et donc, quelque part, à partir de la note blanche, on a un soupçon, on va vérifier à domicile, on va saisir les données électroniques, on va perquisitionner, assigner à résidence, et ce qui permet éventuellement de poursuivre. Mais quand on regarde les poursuites sur les 4 500 perquisitions, finalement, le taux de poursuite est très faible. C'est moins de 10% des affaires qui sont judiciarisées. Et donc, on voit très bien ici que la police administrative bascule dans ce côté prédictif, préventif. Alors là, Olivier Kahn, qui est ici, pourra le décrire, parce que lui, il a écrit plusieurs articles sur les lois antiterroristes qui deviennent un droit pénal de l'ennemi. Et je pense qu'il y a aussi un droit administratif de l'ennemi qui vise à neutraliser des personnes jugées dangereuses. Et donc voilà, tout ça, c'est des évolutions qui sont en cours, qu'on sent fortement pendant l'état d'urgence et massifiées pendant l'état d'urgence, et qu'on retrouve depuis l'application de la loi du 30 octobre 2017. Il faut regarder les statistiques. Au 7 septembre 2018, qui est le dernier bilan de la loi SILT, on est à 277 mesures qui ont été prises sur ce fondement-là, essentiellement des périmètres de protection. Et on pourra en reparler parce que ces périmètres de protection posent vraiment des difficultés dans leur utilisation. Mais aussi 64 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et 64 visites domiciliaires. Et les publics qui sont visés, on va retrouver exactement la même configuration, c'est-à-dire c'est la note blanche, l'identification d'une personne qui a des liens avec des réseaux terroristes, etc., mais qui ne sont pas encore judiciarisés, qui éventuellement sont judiciarisés après la visite ou à l'issue de la MICAS. Voilà, l'évolution, elle est là, on a une évolution très sensible aujourd'hui.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais essayer de peut-être vous donner des éléments d'appréciation par rapport à l'action de l'autorité administrative. Alors, je suis convié ici en tant que conseiller au tribunal administratif de Poitiers, ce qui sont mes fonctions actuelles, et comme maître de conférence ici en droit public. Mais je voudrais parler d'une expérience précédente que j'ai eue sur le plan professionnel, puisque j'ai été directeur général des services de la ville de Tours, ici, et de la métropole, en particulier au moment où on a connu l'affaire Dieudonné. Donc moi, j'ai eu à rédiger la mesure signée ici par le maire de Tours, portant interdiction du spectacle de monsieur Dieudonné Mbala, puisque c'est son nom exact. Alors, la distinction théorique entre police administrative et police judiciaire, aujourd'hui, elle fait l'objet d'un travail savant et scientifique très élaboré, et c'est une bonne chose. Moi, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que du point de vue de l'action administrative, ces différences parfois subtiles sont pas toujours appréhendées à leur juste mesure. Une autorité locale, un maire, ça prend beaucoup de mesures de police administrative. Ça prend beaucoup de mesures de police administrative. Alors, bien souvent, ce sont des mesures qui peuvent paraître relativement anodines. Alors, dans l'opinion publique, la mesure de police administrative aujourd'hui, elle est souvent assimilée à ce qui s'est passé dans le cadre effectivement de l'état d'urgence, des services de renseignement qui interviennent pour neutraliser des terroristes, un contexte extrêmement, extrêmement dramatique. C'est un des aspects de la police administrative, effectivement. Mais je dirais que ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le nombre de mesures de police administrative prises en France, c'est sans commune mesure avec le chiffre qui vous a été indiqué tout à l'heure. Donc l'action de droit commun de la police administrative, en particulier au niveau local, le champ d'intervention est extrêmement, extrêmement vaste. Et ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que l'exercice pour une autorité de police administrative locale, c'est un exercice difficile. Difficile. Alors, sur le plan juridique, si on recadre un petit peu les choses, en ce qui concerne un maire, il y a deux cas où il doit intervenir. Premier cas, c'est l'exécution de règlements de police. C'est-à-dire que ça, c'est une obligation légale qui lui est faite, c'est d'assurer l'exécution des règlements de police, soit ceux qu'il a pris lui-même, soit ceux qui ont été pris par une autorité supérieure. Et puis, il y a un deuxième cas, dont on parle le plus fréquemment, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout trouble à l'ordre public ou le faire cesser. À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'État a posé trois conditions. La mesure doit être indispensable, la situation doit être particulièrement dangereuse pour l'ordre public et un péril grave doit être en cause. À noter que cette dernière exigence semble, dans les dernières décisions du Conseil d'État, s'assouplir relativement et on le comprend assez bien. Pour un administrateur local, pour un maire, le cadre juridique que je viens d'indiquer, il est évident qu'il s'impose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les éléments d'information dont le maire peut disposer pour décider de prendre ou de ne pas prendre une mesure de police administrative sont bien souvent des éléments parcellaires, voire incomplets. Donc le maire doit apprécier, dans des conditions qui sont souvent des conditions liées à l'urgence, avec une montée en puissance de critiques au niveau local. Vous savez, les critiques adressées à l'action municipale, elles sont très fortes. Alors ça n'a pas le même retentissement qu'au niveau national, bien sûr, mais il faut aussi être capable de gérer ça. Il faut en mesurer les impacts sur la population. La population, au niveau local, vous avez un retour qui est extrêmement, extrêmement direct, extrêmement proche. Donc, tout ça pour essayer de vous expliquer que l'action de police administrative au niveau local, c'est un exercice difficile qui est exercé avec des moyens qui sont parfois relativement dérisoires. Les services de l'État prennent des mesures de police administrative. Alors moi, j'ai commencé ma carrière au ministère de l'Intérieur quand je suis sorti de l'ENA, donc je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur, c'est le temple de la mesure de police administrative. Mais pour prendre les mesures de police administrative, le ministre, il a des services spécialisés qui font plutôt un travail, d'ailleurs, assez remarquable. Alors, ils peuvent se tromper, ils font des erreurs. Mais ils font un travail extrêmement difficile. Et en tout cas, le ministre, lui, il peut s'appuyer sur des gens compétents qui, bien souvent, connaissent leur affaire. Au niveau local, c'est vraiment différent. Le maire, y compris dans une grande ville, est un service de police municipale. Mais la police municipale, c'est pas pareil. Pas pareil. Puis après, on a quoi ? Il a quoi, le maire ? Il n'y a pas grand-chose, en réalité. Donc, pour forger sa conviction, il faut bien avoir en tête que le maire, il a des moyens relativement dérisoires. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça peut paraître un peu décalé, hein, peut-être par rapport à certaines réflexions, mais je pense que toutes les réflexions sur le fond sont légitimes dans ce domaine. Mais l'exercice vraiment de police administrative, c'est un exercice qui, dans la réalité des choses, n'est pas si facile que ça à conduire. Quelques mots sur l'affaire Dieudonné. Alors, l'affaire Dieudonné... C'est au mois de janvier 2014. Dieudonné entame une série de spectacles, commence par Nantes, vient ensuite à Tours, et puis va à Orléans. Et donc une polémique s'enflamme, s'engage très très vite. Alors là, pour le coup, avec un retentissement national, le Premier ministre s'exprime, le ministre de l'Intérieur, je crois, va à Nantes, enfin, montée en charge extrêmement, extrêmement rapide et extrêmement brutale. Et adopte une circulaire. Et donc, monsieur Dieudonné Mbala doit venir à Tours. La question que pose le maire, c'est que fait-on ? Que fait-on ? Et là, quand vous regardez le dossier, vous dites, quels sont les éléments d'appréciation ? Vous expliquez au maire quelles sont les conditions qu'il faut nécessairement remplir pour que la mesure ait une certaine solidité juridique. Et puis, vous regardez les éléments dont vous disposez. Alors, évidemment, il y a aussi des échanges avec le service de police municipale, les services de l'État, le préfet, le procureur. Bon, et puis, à un moment donné, il faut trancher. Il faut trancher. C'est-à-dire que le maire, il doit prendre une décision. Donc, la décision est prise. Et puis, les recours sont exercés. Dans un premier temps, sur une mesure identique, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes suspend la mesure. Alors, Conseil d'État, en appel, dans la journée même, infirme la position du juge nantais. Et donc ensuite, si je puis dire, c'est à notre tour, parce qu'on est dans une séquence de temps extrêmement, extrêmement rapprochée. Et donc, le sujet s'oppose. Donc, nous prenons, le maire signe un arrêté interdisant le spectacle de M. Mbala. Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, bien inspiré, lui adopte une position différente du juge des référés de Nantes et en réalité se cale dans la position adoptée par le Conseil d'État. Et ensuite, il en sera de même par le juge des référés du TA d'Orléans quand il aura à connaître de la même mesure prise par le maire d'Orléans. Et le Conseil d'État donc validera l'ensemble de ces mesures. Donc voilà, ça c'est le contexte factuel. En ce qui me concerne, moi j'ai aucun doute sur la légalité de ces mesures. Elles ont été largement commentées et critiquées parce que c'est normal. Mais moi, j'ai aucun doute sur le bien fondé de ces mesures. Alors, pour illustrer un petit peu le propos, j'ai ressorti de mes archives personnelles quelques-uns des propos que l'intéressé tenait dans ses spectacles, les spectacles en question. Par exemple, à la fin de l'année 2013, Dieudonné pose la question suivante à son public. Qu'est-ce qu'un projet néo-nazi en 2013 pour un jeune ? Un suicide collectif dans un bunker ? Faire des savonnettes avec le gratin du show business. Un peu plus tard, évoquant Patrick Cohen, journaliste à France Inter, il déclare, lui, si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, tout ça, dommage. Autre déclaration, même spectacle. Le judaïsme et le mensonge, c'est deux concepts très proches. La vérité est intrinsèquement antisémite. Alors je me dis que dans un état de droit, si on n'est pas capable, quelque part, d'interdire ce genre de propos, je pense que la notion d'état de droit en elle-même peut être remise en cause et critiquée. Pour finir, dernier mot, alors il est évident que la mesure de police administrative, elle doit faire l'objet d'un contrôle. Alors, là, je reprends ma casquette de juge administratif. Aujourd'hui, le contrôle exercé par la juridiction administrative sur les mesures de police administrative est quand même un contrôle très approfondi. Alors, moi, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'avoir à apprécier la légalité de quelques mesures prises dans ce cadre au théâtre Poitiers. C'est des affaires sur lesquelles on a passé énormément de temps. Alors, il y a le sujet des notes blanches. Bon, notes blanches, sujet. Bon. Mais tout ça pour vous dire que la juridiction administrative, que ce soit les juges de première instance, d'appel, évidemment, Conseil d'État, prennent ces questions très très au sérieux, très très au sérieux, et que je crois que la jurisprudence du Conseil d'État, elle témoigne quand même d'un souci particulier d'assurer une protection efficace des droits des citoyens au regard de toutes les mesures de police administrative qui sont prises. Dernier élément en conclusion, pour être un peu provocateur, je vous citais les conclusions d'un commissaire du gouvernement qui s'appelait Rivet, prononcé dans les années 20, à 1920, n'est-ce pas, dans une affaire clé. Le commissaire du gouvernement Rivet avait dit la chose suivante: il faut veiller à ne pas voir l'activité de police énervée par des menaces permanentes de complications contentieuses. Alors évidemment, quand vous dites ça à des juristes et à des magistrats, alors qu'ils soient de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, ça les fait en général bondir. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui mérite réflexion. Je vous remercie.
Donc finalement, vous nous montrez que l'ordre public, l'appréciation de ce qui constitue une menace à l'ordre public pour le praticien que vous êtes, pose difficulté, même si dans certaines circonstances, bon, le doute n'est pas trop permis, ce que vous nous disiez. S'agissant donc du procureur, du membre du ministère public, cet ordre public est-il difficile à cerner? Et la différence entre les deux ordres publics, à condition que cette différence existe? Je vous écoute.
Merci. En réalité, mon opinion, et je vais tenter de vous la faire partager en quelques minutes, c'est que la distinction entre police administrative et police judiciaire n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Et qu'à la vérité, j'ai l'absolue conviction qu'ils soient magistrats, préfets, policiers, tous ceux qui œuvrent en matière de police administrative et police judiciaire ont une vision extrêmement claire à la fois du champ de compétences de chacun et de ce que pourrait provoquer un risque de porosité. Pourquoi est-ce que je l'affirme? La première raison pour laquelle je l'affirme, c'est que déjà on se pose la question. Et j'aurais été extrêmement inquiet si cette question ne s'était pas posée. Et le simple fait de se poser la question veut dire que cette question existe et que par voie de conséquence, dans l'époque qui est la nôtre, dans l'état d'urgence qui a été le nôtre, l'intervention de la police administrative sur les champs conceptuels qui ont été décrits et la réalité que nous connaissons, c'est une intervention qui a fait débat, qui a interrogé, qui a conduit chacun à se positionner et à réfléchir sur son champ et son domaine de compétences avec les moyens qui sont les siens. C'est déjà vous dire que nous sommes dans un état de droit qui sait se poser les questions lorsque cette question vient à être posée. N'oublions jamais que le droit est un artifice. Ce n'est pas une chose de nature, c'est une création humaine. C'est une création humaine pour la régulation d'une société en fonction du type d'organisation de cette société. Une république aujourd'hui, qui n'a pas été toujours une république d'hier, qui peut un jour ne plus être la république d'aujourd'hui, mais qui, en toute occurrence, aura toujours besoin du droit. Le droit que nous connaissons, ou un autre droit, parce que des auteurs ont su expliquer ce qu'est l'infradroit, le droit mou, et je renvoie en cela aux travaux du doyen Carbonnier, qui existent encore dans nos mémoires. Or donc, je vous affirme aujourd'hui que cette distinction n'a jamais eu autant de sens. Cette distinction n'a jamais eu autant de sens, et c'est un magistrat de l'ordre judiciaire qui l'affirme, parce que, très honnêtement, j'ai le bon rôle. J'ai quand même le bon rôle. Pourquoi est-ce que j'ai le bon rôle? Parce que tout simplement, la police judiciaire, elle débute lorsqu'il y a la commission d'une infraction ou lorsque l'on soupçonne la commission d'une infraction. En une phrase. En une seule phrase. Est-ce que vous êtes interrogé sur les richesses de motivation et donc les richesses d'éléments factuels qu'une autorité administrative doit rassembler pour fermer un lieu de culte quand vous en lisez, quand vous en égrenez toutes les conditions ou alors lorsqu'il s'agit de soumettre une personne à une mesure de contrôle. Nous connaissons ces mesures de contrôle dans le cadre du contrôle judiciaire d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il faut motiver, bien évidemment. Il faut motiver quoi ? Le risque de réitération d'infraction ? Ou il faut motiver quoi ? Il faut motiver l'atteinte à l'ordre public ? Pas du tout, puisque ça, ce sont les conditions de la détention provisoire. Ça veut dire qu'une motivation d'un contrôle judiciaire ordonné par un juge des libertés de la détention, par un juge d'instruction, par une juridiction correctionnelle dans le cadre d'un renvoi en comparution immédiate sur la base desquelles l'avocat demandant à différer la date d'audience, le tribunal correctionnel ne va pas placer la personne en détention provisoire, mais va simplement la soumettre à un contrôle judiciaire avec l'interdiction de rencontrer la potentielle victime. Quand vous lisez la motivation, c'est « et ordonnant et faisant interdiction à la personne de rencontrer Madame un tel ou Monsieur un tel. » Point. Pourquoi ? Comment ? Dans quelles circonstances ? De temps, de lieu, au regard de quelle qualification, quel est le critère de dangerosité, vous ne le trouvez pas dans la décision de justice. Tout simplement parce que cette décision n'est qu'une décision de restriction de liberté et non une décision d'incarcération. Et que, comme la valeur fondamentale reste la liberté, la personne restant libre, vous ne l'avez en une ligne. Là, dans une mesure administrative, celui qui prendra cette décision va devoir se confondre en éléments factuels pour éviter de tout simplement subir la sanction de la juridiction administrative. J'ai le bon rôle parce que ce soupçon de commission d'une infraction, il est à la fois extrêmement souple et soumis à des éléments purement factuels. De là, la vraie question, c'est de savoir s'il pourrait y avoir des risques de porosité. Deux éléments que je soumets à votre analyse. Dans l'hypothèse où une décision aurait été prise de mise en place d'un périmètre de protection, qui est une mesure de police administrative. Une personne vient à se présenter parce que tout ce que nous allons étudier aujourd'hui n'a de sens que dans la réalité factuelle des situations. Une personne vient à se présenter pour assister à un spectacle, pour tout simplement assister au carnaval de Nice. Et les agents de sécurité viennent à ce moment-là à lui demander d'ouvrir son sac. La personne refuse. Est-ce que vous êtes face à une situation qui vous permet d'interpeller cette personne ? Elle exerce son droit. Non, je n'ouvre pas mon sac. Monsieur, madame, nous vous interdisons l'accès. Très bien, je m'en vais. Est-ce que nous sommes dans la même situation de celui qui, à la vue de policiers, va tout simplement brutalement changer de direction, conduisant les policiers à ce moment-là à l'interpeller parce qu'il existe un soupçon qui laisse entendre que peut-être cette personne, du fait d'avoir changé brutalement de direction à la vue des policiers, a quelque chose à se reprocher qui peut justifier son contrôle d'identité et vérifier si elle n'a pas sur elle des substances illicites, voire ayant potentiellement participé à une infraction commise en flagrance au regard de cambriolages qui auraient pu être réalisés dans les lieux dont nous n'avons pas encore la connaissance, mais dont l'enquête de voisinage permettra de savoir si réellement ils se sont réalisés à la lumière de ce que peut être le comportement de cette personne. Elle a simplement exercé son droit à ce qu'on ne regarde pas son sac. Et elle s'en va. Est-ce que, à ce moment-là, en application de l'article 73, l'agent de sécurité peut procéder à l'interpellation de cette personne et l'amener à un officier de police judiciaire ou attendre un service de police pour que le service de police vienne prendre en compte cette personne et l'amène à l'officier de police judiciaire sur la base d'un simple rapport rédigé sur un procès-verbal, voire un document idoine, dans lequel il est simplement indiqué que cette personne a refusé d'ouvrir son sac ? Est-ce que nous sommes sur une vraie porosité des polices ? Alors, parce que la mesure de police, nous en cherchons bien évidemment le périmètre, il y a en effet une confusion qui peut exister en ce qui concerne, les conditions de fermeture d'un lieu de culte. Puisque cela a été écrit, et je suis tout à fait d'accord, la fermeture d'un lieu de culte dans ces conditions renvoie en effet à la qualification pénale qui correspond à la provocation apologie du terrorisme. Et c'est là où tout un chacun doit se dire que le début de mon propos est en inadéquation avec ce que je dis à l'instant, en disant non, là, il y a une vraie porosité. Porosité de quoi ? Porosité des règles de motivation, mais certainement pas porosité de l'objectif même de la mesure. Quand nous sommes en matière de droit pénal, nous sommes en matière de droit pénal de la personne. Ce qui veut dire que si nous devons prendre une mesure en matière de procédure pénale, c'est obligatoirement une mesure qui concerne la personne. Or, un lieu reste un lieu et n'est pas une personne. Vous avez ensuite la question de l'urgence de la situation, qui peut en effet exiger que l'on puisse avoir besoin de fermer en urgence un lieu. Or, la fermeture en urgence un lieu doit relever de la police administrative. Peut-elle être faite dans le cadre d'une mesure judiciaire ? À ce moment-là, vous changez les règles du code de procédure pénale et du code pénal. Et vous autorisez cette possibilité, mais qui est obligatoirement rattachée à une personne. Ce qui veut dire que l'enquête judiciaire va devoir démontrer qu'une personne qui est responsable du lieu, parce que c'est à cette condition que l'on pourra, à ce moment-là, dissoudre l'association qui aboutira à ce que le bâtiment ne soit plus utilisé comme lieu de culte, en mettant en cause directement la personne morale, à condition d'établir le fait que l'infraction a été commise au nom et pour le compte par une des personnes relevant de sa responsabilité, ou alors quoi ? Parce qu'il y a aussi le temps de la procédure, avec la présomption d'innocence qui s'applique, de telle sorte que nous aurons cette décision que plusieurs mois, oserons-nous dire plusieurs années au bout du compte, alors qu'il peut y avoir une urgence à fermer ce lieu. Ce qui renvoie tout simplement à une autre question qui a été posée dans la Gazette du Palais, qui m'a abondamment servi de référence, sur le fait, mais est-ce qu'il y a véritablement intérêt à fermer un lieu ? En d'autres termes, est-ce que cette mesure est pertinente ? Parce que c'est exactement la question que posait l'auteur, qui termine son article en disant « Oui, en effet, il y a matière à une intervention de police administrative pour fermer un lieu de culte qui ne peut pas relever de la police judiciaire, ce qui renvoie à la question de « Est-ce que c'est opportun ?» Cette question de l'opportunité de fermeture d'un lieu de culte, est-ce qu'elle relève du champ du droit pénal ? Non. Elle relève d'un autre champ, celui de la criminologie. Non pas des éléments constitutifs de l'infraction, mais de la raison d'être des éléments constitutifs de l'infraction. De telle sorte que tout un chacun doit aujourd'hui se poser la question de savoir si la fermeture d'un lieu de culte est une mesure utile, efficace, au regard de la prévention des infractions, ce qui relève à ce moment-là d'un choix qui est politique et non pas juridique. Dernière chose, c'est bien évidemment sur la question de cette porosité, ce qui est en réalité l'élément central. C'est l'information. D'où vient cette information ? Le secret de l'enquête et le secret de l'instruction aboutit à considérer que cette information qui est détenue par le juge ou par le procureur de la République ne peut en soi alimenter un dossier administratif, sauf l'hypothèse où le procureur de la République himself a décidé, parce qu'il en a le pouvoir, de transmettre une information qui est utile à la prise d'une mesure administrative. C'est quelque chose qui existe tout le temps. Nous avons même des obligations de communiquer. En application de l'article 101 du livre des procédures fiscales, la communication au directeur des services fiscaux, L82C du code du même code, l'article L114-15 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la communication d'informations auprès des CAF, et bien évidemment en la matière, la possibilité d'une communication directe d'éléments qui sont utiles pour l'administration. Mais cette communication aura été faite. Elle aura été faite, elle va alimenter un dossier qui ensuite, si la décision est prise, pourra être soumis au débat contradictoire des parties dans l'hypothèse d'un recours devant le juge administratif. Mais cette information, qui la recueille ? En réalité, la vraie question, ce n'est pas de savoir qui la recueille. La vraie question, c'est est-ce que cette information peut à un moment donné être soumise au débat contradictoire des parties ? À l'évidence, lors d'un recours administratif. C'est la raison pour laquelle ce sur quoi je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est que chacun s'interroge en conscience sur ce que peut être la mission, sur ce que peut être la difficulté d'exercice de ses attributions par une autorité administrative qui a l'obligation de motiver sa décision, parce que l'essentiel est vraiment là. Je serai tout à fait d'accord à considérer qu'il existe un danger s'il n'y avait pas cette obligation de motivation. Et c'est peut-être la bascule réelle qu'a opérée la loi du 30 octobre. C'est quand on regarde le luxe de critères qui ont été établis par la loi pour, et le mot doit être lâché, justifier la prise de décision. Après, vous avez entièrement raison de craindre une police de la pensée. C'est important de le dire. Parce que le fait de se poser la question, le fait d'entrer cette question dans le débat, oblige tout à chacun à réfléchir. À ceci près que, et jusqu'à preuve du contraire, et j'attends bien évidemment qu'on me prouve le contraire, et que nous nous prouvions le contraire. Le contraire serait que, et tout simplement le fait, serait tout simplement le fait que cette police de la pensée ne soit qu'une police de celui qui exprime sa pensée dans la prise de décision d'une police administrative. Or, jusqu'à preuve du contraire, cette police de l'expression de la pensée, c'est la police de la motivation. On motive en fonction des craintes que l'on peut légitimement avoir à l'égard d'une personne qui, au regard de son attitude, de son comportement, de ses propos, de ce qu'elle a pu dire, de ce que l'on en sait, des rapports qui ont été établis, a exprimé un comportement qui peut présenter une réelle dangerosité. Dernière chose. Ce qui nous conduit tous véritablement à nous poser toutes ces questions, c'est le fait que le temps a changé. C'est que nous sommes face à une menace terroriste, ben en fait, qui a toujours existé. Depuis quand dans l'histoire est-ce que notre pays n'a pas été soumis à un moment donné ou à un autre en son temps à une menace terroriste ? Revisitez l'histoire. Revisiter ce qu'était par exemple la bande à Bono, qui voit apparaître véritablement la création de la police judiciaire et qui, tout simplement, exécutait des gens en pleine rue. Ce sont des choses qui ont existé. Sauf qu'à l'époque, la question de la distinction entre la police administrative et la police judiciaire, on ne se la posait pas vraiment. Comme on ne se posait pas vraiment la question de ce qu'était une garde à vue, de la présence de l'avocat en garde à vue, de toutes les garanties qui sont aujourd'hui offertes. De telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, si nous nous posons la question, nous nous posons la question, mais à une époque où force est de constater que notre droit a considérablement progressé. Maintenant, est-ce que ce progrès reste toujours une source d'enrichissement ou est-ce qu'il ne porte pas en lui-même les germes d'un risque d'appauvrissement de l'ordre public et la protection de nos concitoyens ? C'est peut-être là que la question se pose véritablement. Je vous remercie.
Je souhaiterais rebondir sur donc, vos propos, et cela risque de vous étonner, comme ceux qui connaissent un petit peu mes travaux, c'est que je suis totalement d'accord avec vous. La distinction entre police administrative et judiciaire a un sens dans la mesure où elle est utile. Elle est utile pourquoi ? Parce qu'on a une dualité juridictionnelle, et donc effectivement, il faut répartir les compétences. Elle est également utile dans la mesure où, vous l'avez très bien démontré, tous les intervenants l'ont démontré, c'est que les deux sont complémentaires. En gros, la police administrative, me semble-t-il, permet d'appréhender des situations qui ne peuvent pas être directement appréhendés et résolus par le droit pénal. En amont, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des mesures de police administrative parce que peut-être que la police judiciaire, les dispositions du code de procédure pénale ne permettent pas de neutraliser ou contrôler l'individu le temps de l'enquête. Et surtout en aval, puisque maintenant on sait que ces mesures de police administrative peuvent être utilisées pour éviter les sorties sèches de personnes qui ont notamment été condamnées pour terrorisme. Donc oui, effectivement, c'est très utile dans la mesure où ça permet de neutraliser la dangerosité et on assiste véritablement à un essor d'un droit de la dangerosité. Toutefois, je ne vous suis pas totalement puisque j'ai quand même du mal à voir quelle est la distinction entre les deux. Quel est le critère de distinction ? Et ce qui est quand même indispensable du point de vue de la prévisibilité, de la sécurité juridique. J'ai du mal à faire la différence entre le soupçon qui peut justifier une enquête préliminaire et les raisons de penser qu'une personne constitue une menace. D'autant plus que les mesures de police administrative qui vont être mises en œuvre contre cet individu qui présente une menace seront des mesures individuelles. Et comme vous l'avez dit, ça relève plutôt du droit pénal, les mesures individuelles, et pas nécessairement de la police administrative telle qu'elle était pensée. Et je m'interroge finalement sur l'impact que peut avoir cette confusion sur l'enquête préliminaire en tant que telle. Est-ce que cette enquête préliminaire a encore un intérêt aujourd'hui, dans la mesure où on peut passer par ces mesures de police administrative qui sont beaucoup plus efficaces, avec un cadre moins contraignant pour les acteurs, mais peut-être moins protecteur pour le justiciable ? Après, ce sont quelques interrogations. Je n'ai pas la réponse absolue, je ne l'affirme pas, mais c'est vrai que je m'interroge. Monsieur Slama, peut-être ?
Je veux bien réagir parce que, effectivement, Dans l'étude du CREDOF, on s'est vraiment rendu compte de ça. Bon, le droit à la dangerosité, le caractère prédictif de l'ordre public et le fait que les personnes qui étaient appréhendées par les assignations, résidences et les perquisitions, c'est des personnes qui auraient pu être judiciarisées pour la plupart. Sauf que la judiciarisation aurait demandé d'énormes moyens et respect des droits. Enfin, heureusement, il y a beaucoup de garanties en droit pénal, ce qui fait que ces personnes, ça aurait été compliqué. Ils auraient pu être poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'entreprises terroristes. Mais ça aurait demandé, je l'ai dit, hein, ça concerne 10 000 personnes au total, les mesures, 4 500 perquisitions, donc c'est tout de même quelque chose d'assez important. Et la mesure qui permet ça, c'est la note blanche. C'est vraiment la différence, parce qu'évidemment, une note blanche ne suffit pas à faire des poursuites pénales, mais elle suffit à prendre une mesure administrative qui est ensuite soumise au juge administratif et soumise au débat contradictoire. Et quand on regarde les décisions, dans 85% des cas, les juges administratifs confirment la légalité de la mesure fondée sur la note blanche. Et il est là le problème des mesures d'état d'urgence. Et ça se prolonge. Moi, j'aimerais réagir surtout sur le fait que la logique Dieudonné et la logique de l'état d'urgence se prolonge bien dans le droit de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Je vais reprendre les mêmes exemples, les périmètres de protection. Alors, je ne vais pas prendre le même exemple. Vous allez à la gare de Lille Europe. Vous refusez d'ouvrir votre sac. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne prenez pas votre train. Voilà. Là, donc. Et qu'est-ce qui arrive si vous refusez d'ouvrir votre sac? Ben, le vigile qui aura demandé à ouvrir le sac, il va avertir les policiers qui sont dans la gare. Les policiers vont arriver, vont faire un contrôle d'identité. Si la personne contrôle d'identité, qui sera justifié au regard du risque de trouble à l'ordre public, enfin, il y aura forcément un fondement. En plus, on est dans une bande des 20 km, donc c'est parfait, on peut faire un contrôle généralisé. Et la personne risque de se retrouver en vérification d'identité. Et elle ne prendra pas son train. Donc vous voyez là, la conséquence du refus d'ouverture du sac, c'est pas simplement, là, je ne prends pas mon train, c'est pas simplement, je n'assiste pas au spectacle, quoi. Et quand on regarde attentivement où sont créées les zones de protection, les périmètres de protection, ça correspond beaucoup aux gares, enfin un ensemble de zones de ce type-là. Pour la fermeture des lieux de culte, je pense que la rédaction de la loi pose une vraie difficulté, puisque ce n'est pas simplement les paroles qui peuvent donner lieu à la fermeture d'un lieu de culte, c'est aussi la propagation d'idéologie. Et il est là la difficulté, c'est-à-dire, et quand on voit un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire de la mosquée de Marseille, on est sur l'idéologique, on n'est pas sur des personnes qui ont tenu publiquement des prêches. C'est vraiment des personnes à qui on les affilie à une idéologie salafiste, etc. Et on dit ils sont dangereux et donc on ferme le lieu de culte et on expulse l'imam. Donc on prend aussi une mesure ici fondée sur l'ordre public. Et ce qui est surtout plus inquiétant, c'est les mesures, c'est-à-dire les mesures individuelles de contrôle administratif et surveillance et les visites et saisies, ça, c'est des décisions individuelles qui reposent sur des personnes qui pourraient être appréhendées par le droit pénal, mais où on n'a pas assez d'éléments. Et donc, souvent, on veut aller faire des vérifications par le biais de ces mesures-là. Donc, tout ça pour vous dire que je pense vraiment que la frontière est brouillée et se brouille de plus en plus. Et je réagis sur Dieudonné. En fait, vous avez eu de la chance à Tours. Vous êtes arrivé après l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 9 janvier 2014. Vous savez très bien que, comme juge administratif, que préalablement, à chaque fois que le juge administratif avait été saisi, y compris le Conseil d'État, il avait confirmé la légalité des spectacles de Dieudonné sur les spectacles précédents. Et donc, quand le juge des référés du tribunal administratif de Nantes y suspend, il le fait au regard de la jurisprudence du Conseil d'État. Il dit qu'il n'y a pas de trouble objectif matériel, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas, pas une manifestation qui aurait empêché, vous savez, la jurisprudence renoncinale, la tenue du spectacle, c'est-à-dire qu'il était possible de garantir le spectacle et les manifestants. Et donc, là où l'évolution a lieu, c'est l'ordonnance du 9 janvier 2014, et elle est critiquée pour ça, il y a une double dilution de l'ordre public. La première dilution, elle est très connue, c'est que c'est la dignité de la personne humaine et l'atteinte à la tradition républicaine de la France et à la déclaration des droits de l'homme qui justifie la mesure, c'est-à-dire on dit que les propos que vous avez cités, et c'est tout à fait vrai, portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Donc ça, c'est une première dilution qui n'est pas notre propos aujourd'hui, mais il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une extension de l'ordre public dans une dimension subjective. Et la deuxième dilution, c'est que la mesure peut être prise parce qu'on pense qu'il va récidiver. Et donc, vous voyez, il a pas commis un trouble objectif à l'ordre public. Si commettait une infraction, le parquet peut être saisi, il pouvait très bien le poursuivre. D'ailleurs, elle a été condamnée je ne sais plus à combien de reprises, 17 ou 18 reprises, donc, pour ces spectacles, pour les propos que vous avez cités. Donc là, le droit pénal fonctionne parfaitement. Mais là, en plus, on empêche une activité sur le fondement de l'idée qu'il va nécessairement récidiver. Et pour moi, alors évidemment, dans l'affaire Dieudonné, c'est car on peut l'accepter parce que bon, mais sauf que quand vous appliquez dans d'autres cas, et malheureusement ça a été ensuite appliqué dans d'autres cas, ça me paraît beaucoup plus problématique. Et moi, je reprends souvent soupe au cochon, ça me paraît assez révélateur. C'est des personnes qui commettent des infractions sur la voie publique, ils n'ont pas été pénalisés, mais on leur interdit la distribution de la soupe. Et là, on a vraiment un brouillage entre le pénal et l'administratif.
Oui, et quelques mots sur les troubles à l'ordre public, les risques de troubles à l'ordre public à Tours. Pour le spectacle Dieudonné, les risques étaient avérés. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Conseil d'État. Hein ? Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique. Pour être précis là-dessus, nous, on a dû évacuer la mairie de Tours pour menace à la bombe, attentat à la bombe. La gare de Tours a été fermée pour le même motif. Le préfet a reçu des lettres de menaces, alors émanant de différents secteurs d'opinion. Et on était informé que des manifestants arrivaient d'un petit peu partout, des quatre coins de la France, en particulier de Paris, pour empêcher, si le spectacle devait se tenir, que celui-ci se déroule de manière normale. Donc, quand même... je ne sais pas. Très honnêtement. Mais à Tours, ce que je peux vous dire, c'est que le risque de trouble à l'ordre public était manifeste. S'il ne l'est pas dans ce cas-là, il ne l'est jamais. Deuxième élément, ce qu'a retenu le Conseil d'État, c'est que l'autorité administrative est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des infractions pénales soient commises. Or, l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des propos... ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, dans le cadre de spectacles tenus précédemment. Et puis, dernier élément sur la décision du Conseil d'État, il ne s'est pas placé sur le terrain de la dignité humaine. Il n'est pas allé sur ce terrain-là. Hein, il n'est pas allé. Il a évoqué la mise en cause de la cohésion nationale, mais il n'est pas allé sur le terrain de la dignité humaine. Quelques éléments, si vous le permettez, sur les notes blanches. Les notes blanches, c'est sûr, c'est un sujet sensible. Un sujet sensible. Soumise au contradictoire, les notes blanches sont discutées par les parties. C'est sans doute légitime, puisque c'est sur les éléments contenus dans cette note blanche que l'autorité administrative va prendre sa décision. Ce que je voudrais dire, c'est que pour les services de police, les services spécialisés, c'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi ? Parce que dans les notes blanches, si on raconte tout, entre guillemets, vous pouvez mettre en danger la vie de certaines personnes. Parce que les renseignements qui sont obtenus par les services spécialisés, ce sont des renseignements qui sont protégés. Les sources... les renseignements, si vous voulez, il faut des sources pour avoir des renseignements. Ça ne tombe pas du ciel, ça n'arrive pas au courrier le matin. Les gens qui fournissent ces renseignements, il faut peut-être aussi s'intéresser à leur situation. Alors le contradictoire, il doit avoir lieu. Mais à quel prix ? Moi, je pense qu'il faut quand même, il faut des limites là-dedans. Ma conviction, c'est que dans les notes blanches, de toute façon, les services spécialisés n'indiquent pas la totalité des informations en leur possession. Je pense qu'il faut l'admettre. Mais par contre, on doit exiger d'eux que les éléments qui sont nécessaires à la motivation de la décision doivent être fournis. Voilà.
Pour enrichir le débat sur ce qui vient d'être dit, toujours au regard de ce que doit être l'identification du point de départ de la mesure de police, au regard de sa finalité. L'un des arguments qui nous est opposé, c'est de dire, finalement, une même situation peut faire l'objet de deux mesures distinctes. Une mesure administrative et une mesure judiciaire. L'exemple le plus topique, c'est bien évidemment ce que peut être d'un côté la dangerosité révélée d'une personne et par voie de conséquence la crainte d'un passage à l'acte. Considérant qu'il existe en matière de droit pénal... des qualifications obstacles, dont l'association de malfaiteurs constitue l'exemple le plus abouti, qui pourrait parfaitement permettre à l'autorité judiciaire d'intervenir. Et donc, par voie de conséquence, vous voyez bien qu'il existe cette porosité. Là, je vais vraiment me draper dans mes attributions de magistrat du parquet pour que vous entendiez tous quelque chose que vous avez assez rarement entendu de la part d'un magistrat du parquet et qui pourtant, je vous assure, nous anime tous. Vous êtes prêts ? Ok. Je ne sais pas. Et profitez-en, hein. Parce qu'il paraît, d'après ce que l'on n'arrête pas d'entendre aux actualités et dans les différents intervenants, principalement les avocats, que nous ne sommes jamais habités par le doute. Alors profitez-en parce que vous avez là un magistrat du parquet qui doute. C'est génial, hein ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si une personne qui fait le prêche dans un lieu de culte, je vais pouvoir rassembler les éléments constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs. Parce que quand on revient sur ces éléments constitutifs, c'est tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. C'est quoi les faits matériels ? Un, où est-ce que je les trouve ? Deux, qu'est-ce que je vais trouver ? Il fait le prêche. Ouvertement, il appelle les fidèles, ou en tout cas ceux qui prient avec lui, à des actions matérielles. Très bien. Donc, il est où le groupement formé en vue de la préparation caractérisée ? Donc, quand on reprend la jurisprudence, hein, il faut un plan, il faut des armes, il faut que les personnes soient et discutées entre elles. On avance un peu dans le raisonnement. Je vous rappelle la jurisprudence concernant la bande organisée. Donc, tout le monde a en tête le fait que les critères de la BO sont exactement les mêmes que l'association de malfaiteurs. La chambre criminelle de la Cour de cassation nous a dit la bande organisée, ce n'est pas seulement trois personnes qui se concertent entre elles. Vous devez établir une hiérarchie, une organisation fonctionnelle, une répartition des rôles, et ça, en conscience. Imaginons que vous soyez tous officiers de police judiciaire. Vous allez décemment appeler votre procureur pour lui dire, monsieur le procureur, madame le procureur, madame la procureure, voilà, je vous rends compte parce que là, j'ai les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs. Il fait le prêche pour un passage à l'action. Et nous, que ce soit à la permanence ou dans notre bureau, on va vous dire, écoutez, il n'y a pas de problème, transmettez-moi. Vous, bien évidemment, vous le placez en garde à vue, puis on va faire une comparution immédiate. Et je requiers quoi, moi, à l'audience ? Monsieur le Président du tribunal, je vous demande de condamner monsieur Untel. Parce que la comparution immédiate, c'est l'assurance d'avoir une réponse immédiate hein, dans les 48 heures chrono. Hein, donc c'est l'urgence hein, qui nous guide. Donc je vous laisse à tous le soin de réfléchir en conscience à ce que vous allez dire au tribunal pour le convaincre de condamner la personne pour association de malfaiteurs. Oui, parce qu'il y a un petit souci quand même dans mon raisonnement. Hein. Tout le monde l'a vu, le souci ? Non ? Depuis le début, je vous parle de la personne.
Il y a d'autres infractions applicables éventuellement.
Tout à fait. Mais il faut rassembler les éléments constitutifs. Parce que le juge judiciaire, il est devant sa feuille, une fois qu'il a entendu les parties, c'est-à-dire le ministère public et la Défense, il ouvre son dossier et il faut qu'il trouve ces éléments constitutifs. Il faut qu'il les établisse. Là, en l'occurrence, alors je prends l'association de malfaiteurs parce que c'est l'infraction obstacle. Et c'est celle qui correspond le mieux à ce que peut être la recherche d'une implication d'une personne dans le fait de faire le prêche pour un passage à l'acte.
C'est
extrêmement compliqué.
Voilà. L'apologie, l'entreprise criminelle terroriste, individuelle terroriste, pardon.
On peut, mais le lieu en lui-même, on ne pourra pas le fermer. Ça repose la même question.
Vous parlez de la fermeture des lieux de culte, effectivement, là, mais la police administrative... Oui, tout à fait.
Non, moi, c'est la finalité.
Je vois mes deux camarades.
L'idée, quand même, que le simple fait d'avoir insulté des trucs de Daesh, renvoyé à la participation à un groupe criminel, donc un bonhomme tout seul, association de malfaiteurs, c'est toute la jurisprudence, toute la doctrine du parquet de Paris à l'heure actuelle sur l'association de malfaiteurs criminels, c'est consultation avec admission d'un point, donc on n'a pas besoin de personne.
Ah, vous avez entièrement raison et vous répondez à ma question par cette intervention. Comment fait-on pour vérifier que la personne a consulté? Ça, une police administrative ne peut pas le faire. Vous allez me dire si, par une mesure de saisie dans un lieu.
Bien sûr.
Mais ça veut dire au préalable que vous ayez les éléments suffisants sur le plan administratif, ce qui repose à nouveau la question du recueil d'informations. Moi, je polarise sur ce recueil d'informations. La note blanche dont on a parlé, est soumise au contradictoire. La note blanche peut à ce moment-là, par exemple, correspondre au renseignement anonyme.
Pour les étudiants, il faut préciser ce que c'est note blanche. Donc, en fait, c'est une note des services de renseignement intérieur. C'est des rapports de police, concrètement, des services de renseignement, dans lesquels il n'y a pas l'identification de la source, il n'y a pas l'identification de l'auteur de la note. Donc, on ne sait pas qui a produit la note, ce qui est normal, puisque ça couvre les activités de police. Et c'est utilisé depuis les années 90 dans la jurisprudence du Conseil d'État, notamment sur l'expulsion des imams. Donc, mais le note blanc, jusque-là, c'était 2-3 utilisations par an dans la jurisprudence du Conseil d'État. On est passé dans une utilisation massive, c'est-à-dire quand on regarde les 800 décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, la note blanche est au cœur de tous les contentieux. Donc c'est vraiment l'élément déterminant. Et quand on regarde en termes probatoires, tout à l'heure ça sera évoqué par Maître Pinatel qui a eu beaucoup d'affaires de ce type-là, on a une aversion à la charge de la preuve. C'est-à-dire on a une administration qui dit voilà, vous avez fait ça, ça, ça et ça sur des éléments assez vagues. Et après, c'est à la personne de se débrouiller pour essayer de dire « Non, non, mais moi, si j'étais en Turquie, ce n'était pas pour aller à la frontière irako-syrienne. Enfin, » Et il est obligé de se défendre un ensemble d'éléments. C'est quasiment impossible. Et quand on regarde concrètement ce que fait le juge administratif derrière, il confirme. Il confirme dans 85% des cas le contenu de la note blanche. Il prend les éléments factuels, hein, pas les interprétations. Et moi, j'ai énormément d'exemples de personnes où ça paraît extrêmement limite et le juge administratif confirme la décision de la note blanche. Donc, je voulais juste réagir sur une chose. Dans l'affaire Dieudonné, il y a bien une référence à la cohésion nationale, c'est vrai, mais l'atteinte qui est constatée par le juge des référés du Conseil d'État dans l'ordonnance du 9 janvier, je précise parce qu'il y a une deuxième rédaction le 11 janvier par Éric-Guy de Casanova, mais c'est bien l'atteinte à des principes, à des règles et des principes. Et le principe en cause, c'est la dignité de la personne humaine et notamment consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la tradition républicaine. Donc vraiment, dans Dieudonné, il y a bien une référence à la dignité et l'atteinte qui est constatée dedans, c'est l'atteinte à ce principe. Et juste après, il est dit, l'ordre public permet aussi la prévention des infractions pénales. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que je pense que l'affaire Dieudonné, l'affaire de la soupe au cochon et l'affaire Agriffe et puis les ordonnances de Monjou notamment, alors, on n'en a pas encore assez parlé, je pense que c'est tout même important. Dernière chose, vous savez, de Monjou, c'est la première décision du Conseil d'État sur les assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Et ce qui a été évoqué Donc, on est en présence d'un groupe de personnes qui sont des libertaires contre la COP21, parce qu'ils pensent que la COP21 ne permet pas de résoudre le problème, et ils comptent venir sur Paris. Et donc, on prend des assignations à résidence à Nantes ou à Rennes pour les empêcher de se rendre à Paris. Très clairement, ce n'est pas des personnes dangereuses, c'est reconnu par l'administration. On n'est pas du tout de personnes qui risquent de faire des attentats terroristes, des choses comme ça. Mais la mesure est justifiée par le contexte de la COP21 et le contexte de l'état d'urgence. C'est-à-dire, pour pouvoir protéger la COP21 en novembre 2015, et alors qu'il y a eu les attentats, on a besoin de forces de police particulièrement mobilisées. Et donc, c'est ce qu'on appelle la logique opérationnelle. Et ça, c'est vraiment très, très important dans l'état d'urgence. C'est-à-dire, si on n'a pas assez de forces de police, on peut restreindre les libertés à assigner à résidence 12 heures par jour quelqu'un à son domicile. La logique opérationnelle, c'est l'anti-arrêt Benjamin. L'affaire Benjamin, vous savez, c'est le principe, c'est que l'autorité de police doit déployer les forces de police pour protéger la liberté de réunion et la liberté de manifestation. Ben là, c'est l'inverse. C'est l'anti-Benjamin. C'est vraiment anti-libéral, quoi. C'est la logique anti-libérale. On est mobilisé par autre chose et donc on restreint de manière radicale les libertés. Et ça, vraiment, il faut le dire, hein, ces arrêts, c'est des basculements et c'est un brouillage de frontières, j'insiste énormément là-dessus, c'est un brouillage de frontières entre ce que peut faire la police administrative et ce qui peut être appréhendé par le pénal.
Avant de laisser la parole à la salle, une remarque de M. Camus.
Rassurez-vous tous, hein, c'est tout l'intérêt de la richesse de ce débat, mais bien évidemment, nous continuons à rire énormément des sketchs de Desproges et de Coluche. Hein. C'est bon ? Bon, il y en a qui doivent se demander à quoi ça renvoie. Vous irez voir les sketchs de Desproges et vous les replacez dans le contexte d'aujourd'hui. Merci.
Y a-t-il des questions ou des remarques ? Monsieur ? Ah, attendez, le micro.
Hop.
Alors moi, j'ai une remarque qui s'adresse à monsieur le professeur Serge Slama, parce que j'ai l'impression que vous portez un regard assez critique sur la jurisprudence Dieudonné, et moi également. Je partage notamment les critiques de Jean Valine dans son précis droit administratif qui considère, et là je voudrais vraiment l'avis des magistrats présents également, qui considèrent que la police administrative, elle s'est un petit peu substituée à la carence de la police judiciaire. Alors moi, c'est mon avis. C'est mon avis, et je voudrais savoir comment vous pouvez interpréter cette décision par rapport à cette remarque, parce qu'effectivement, on a au départ le préfet de l'Atlantique qui prend un arrêté, et l'arrêté, bien évidemment, il saute devant le TA de Nantes, parce que le juge des référés fait une application très classique de Benjamin. Et c'est une application qui est, me semble-t-il, tout à fait conforme au droit. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas de trouble objectif à interdire Dieudonné. Et il va même au-delà, parce qu'il va dire qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait pas assez de fonctionnaires de police pour assurer la sécurité, et justement, c'est de l'anti-Benjamin, ça veut dire que l'autorité de police, elle peut se prévaloir véritablement de cette carence, ou de sa propre carence, justifiée par les circonstances, certes, mais pour finalement violer le droit, en fait. Enfin, violer le droit, en tout cas méconnaître, puisque personnellement, en tout cas, je pense qu'effectivement, on a eu la chance à Tours, effectivement, que le Conseil d'État soit prononcé dans une rapidité qui est d'ailleurs assez étrange, mais qu'il soit prononcé extrêmement rapidement, et surtout qu'il soit prononcé parce que, bon, on regarde la jurisprudence, effectivement, et depuis l'arrêt Cournon ou commune d'Auvergne, effectivement, on avait ces décisions du Conseil d'État qui effectivement disaient il y a effectivement une violation de la dignité humaine, et on a l'impression qu'effectivement il y a une petite police de la pensée, parce qu'on se dit finalement prêter à Dieudonné on a en fait dans la motivation du Conseil d'État, et je vais essayer d'être rapide, on a l'impression que le Conseil d'État dit mais Dieudonné va reposer effectivement, enfin en tout cas des propos qui sont naturellement antisémites et qui doivent naturellement être appréhendés, mais je pense par le droit pénal, et on a l'impression qu'il y a cette police de la pensée et cette anticipation. Voilà, je voulais avoir votre avis.
Alors, la question m'était pas posée, pardon, mais je vais quand même répondre. Que le droit pénal, alors pour qu'il y ait police judiciaire, il faut qu'il y ait une infraction. Et le fait de prévoir une infraction pour un spectacle qui n'a pas eu lieu, dans lequel les discours n'ont pas été encore tenus, personnellement, ça me pose un petit problème.
Je peux répondre, en fait, il avait été condamné à de multiples reprises par les juridictions pénales pour des infractions. Ouais. Il s'est simplement en fait arrangé pour ne pas payer ses amendes. Et j'ai l'impression que la police administrative est intervenue un petit peu en suppléance des carences de la police judiciaire. D'ailleurs, il est poursuivi actuellement où il était il y a peu longtemps encore pour ces infractions qui tendaient à devenir insolvable pour échapper au paiement de ses amendes pénales.
C'est peut-être pas la carence, c'est la lenteur. Parce que le problème, il avait été condamné, je ne sais plus, je crois, 17 condamnations à ce moment-là, j'ai oublié. Donc,
c'était une dizaine de fois.
Une dizaine de fois, bon. Et donc, très clairement, le droit pénal avait fait son rôle. Mais sauf que il faut du temps, il ne paye pas, donc il y a des procédures, on respecte ses droits, etc. Et là, la police administrative, évidemment, est rentrée dans l'interstice en disant risque de commission d'infraction pénale. Alors, l'affaire Dieudonné, moi, m'a toujours laissé, autant l'interdiction des spectacles de Dieudonné, en soi, je ne suis pas forcément contre. Et quand vous avez des éléments objectifs qui permettent de démontrer des troubles à l'ordre public, il y a un risque de manifestation, d'heure, etc. Bon, c'est Benjamin et on l'applique, quoi. Autant, à partir du moment où c'est sur cette idée qu'il va forcément récidiver dans son spectacle, moi, ça me pose une vraie difficulté, parce que ça a fait sauter une frontière de l'ordre public. Et depuis, on la voit utilisée. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours réagi à Dieudonné par rapport à ça. J'ai dit que c'est une mauvaise décision pour les libertés, parce que ça fait sauter ce verrou essentiel. Et donc, dire que l'ordre public, c'est la dignité, et c'est plus largement la tradition républicaine et la déclaration des droits de l'homme. On sait très bien, par exemple, que les discriminations, ce qui est au cœur de l'affaire Soupeau-Cochon, c'est est-ce qu'une discrimination est une atteinte à l'ordre public ? On s'est beaucoup posé la question, vous savez, au moment de la burqa, où finalement, c'est le vivre ensemble qui permet l'interdiction de la burqa, mais on s'était posé la question, est-ce que c'est aussi une atteinte à l'ordre public ? Et donc, imaginez que tout comportement discriminatoire devienne une possibilité d'interdiction sur le fondement de l'ordre public, vous voyez l'extension considérable qu'on a en termes d'atteinte à l'ordre public. Et en fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'au fur et à mesure, on revient sur le principe libéral qui est dans la jurisprudence Benjamin. Et par ailleurs, une chose qu'on ne dit pas assez, Souvent, le Conseil d'État dit Domanjou, c'est une jurisprudence importante parce qu'on passe au triple test sur les mesures d'exception. C'est vrai, il y a un triple test de proportionnalité. Le triple test qu'on connaît depuis longtemps, mais qui a été développé depuis A' et Ligue des droits de l'homme sur le passeport électronique. Eh bien, le problème, c'est quand on regarde attentivement comment les juges administratifs font un triple test, il y a un papier de Cédric Roulac dans la Revue française de droit administratif, vous apercevrez que les juges administratifs ne savent pas faire un triple test. Ils ne comprennent pas la logique du triple test. Le vrai type triple test à l'allemande, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus poussé. Là, concrètement, le juge administratif, il reste sur la proportionnalité classique, mais sans réellement mettre en balance, regarder l'adéquation et la nécessité. Là, vraiment, c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que la contrepartie qui nous est vendue, en fait, elle n'est pas réelle dans le contrôle du juge administratif.
Moi, je voudrais apporter un éclairage quand même par rapport à ce qui vient d'être dit sur... La philosophie d'une mesure de police. J'ai un peu le sentiment qu'on considère la mesure de police administrative comme une mesure répressive. Mais ce n'est pas essentiellement ça. D'abord, une mesure de police administrative, c'est une mesure qui a pour but de prévenir une situation de trouble. De prévenir. C'est-à-dire que vous êtes en amont. Alors, premièrement, en amont, mais pas toujours tous les éléments qui permettent de se forger une conviction complète. Et donc là aussi, il y a un doute pour l'administrateur. Et puis, deuxièmement, le trouble à l'ordre public, vous êtes obligé de l'envisager tel qu'il pourrait se produire. Sachant que si vous ne le faites pas, si vous n'intervenez pas, et que le trouble à l'ordre public intervient, ensuite, votre responsabilité va être mise en cause, responsabilité administrative, voire pénale. Je ne vous parle même pas de la responsabilité politique. Alors, donc, il faut bien savoir que l'autorité de police administrative, elle va penser quand même à tout ça. Et dans l'affaire Dieudonné, à Tours, si la mesure n'avait pas été prise, moi, je suis convaincu que nous aurions eu des troubles graves, à l'ordre public, parce que des manifestants arrivaient des quatre coins de la France, des alertes à la bombe avaient été proférées. Donc, si vous voulez, j'ai pas de doute là-dessus. Alors, on peut critiquer la mesure, mais en l'espèce, pour moi, le doute n'a pas sa place. Bon. Alors, c'est vrai que sur l'écriture des ordonnances, le Conseil d'État a adopté des rédactions différentes entre Nantes, Tours et Orléans. Bon, voilà, alors ça fait partie...
C'est assez connu, hein, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par Bernard Stiern l'a été en moins de 3 heures. En fait, les avocats de Dieudonné étaient encore dans le train entre le TA de Nantes et le Conseil d'État. Ils n'ont pas pu assister à l'audience, d'ailleurs.
Oui, mais attendez, si vous permettez, parce que
c'était avant.
J'entends bien, mais si vous voulez, un des reproches classiques qui a été fait de tout temps à la juridiction administrative,
c'est la lenteur.
Bon, ouais. On met en place, le législateur, dans sa grande sagesse, n'est-ce pas, met en place un régime de référé, suspension, référé, liberté, bon, j'en passe. Et puis, là, le Conseil d'État... Célérité extrême se prononce effectivement de manière supersonique.
J'ai une question. Mais ça a été dans l'autre sens.
Ça me paraît quand même difficile de faire ce reproche aux membres du Conseil d'État.
Mais si ça a été dans l'autre sens, si la requête a été rejetée par le TA de Nantes, est-ce qu'on aurait eu la décision dans la journée du Conseil d'État? C'est une vraie question, hein, mais je n'ai pas réponse.
Moi non plus.
Et donc pour finir, le 11 janvier, il y a d'autres ordonnances rendues par M. Henri-Guy de Casanova et la rédaction évolue légèrement. Je pense que la rédaction est beaucoup plus rigoureuse juridiquement que la décision rendue en 3 heures le 9 janvier.
On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde et pas avec n'importe qui. Parce que le fond du problème, c'est à quel moment, dans notre état de droit, l'affaire Dieudonné est intervenue. Et je le disais tout à l'heure, mais quand vous reprenez des sketchs de Desproges et Coluche, dans les années 80, ça ne posait aucun problème. Vous les revisitez aujourd'hui, à n'en pas douter, cela poserait un problème. Ce qui veut dire que c'est aussi une interrogation qui doit être le vôtre sur ce qu'est le rôle du droit. Soit le droit est un simple outil de régulation sociale, ce qui veut dire que quel que soit le système, même un système totalitaire, même un système mafieux, dès lors que vous avez des règles qui sont sanctionnées, vous avez un système juridique. Mais ça veut dire que vous lui enlevez tout ce que constitue l'essence même du droit, c'est-à-dire ses valeurs. Soit vous posez la règle à partir de ses valeurs, et au nom de ses valeurs, à ce moment-là, vous redéfinissez ce que doit être le droit, mais qui va nécessairement heurter ce qu'est la conscience collective et ce qu'est l'état d'une société donnée, qui est justement le critère fondamental de la police administrative. Parce que la notion d'ordre public évolue avec son temps. Elle évolue en fonction de ce que doit être, non pas seulement la prévention d'une infraction, mais surtout le maintien de l'ordre public. Sur le plan judiciaire, c'est plus compliqué ou plus simple. Nous avons des principes qui sont affirmés et nous avons des éléments constitutifs de l'infraction. Donc vous avez d'un côté un droit judiciaire qui n'est pas figé, c'est pas ce que j'ai dit. Il s'est évolué, mais qui est soumis à des principes de légalité criminelle qui sont marqués dans le marbre. Et de l'autre côté, une police administrative qui, elle, évolue au gré de ce que peut être le besoin d'ordre dans une société à la lumière de ce qu'est cette société. C'est la raison pour laquelle je considère toujours que la séparation entre police administrative et police judiciaire, elle a du sens. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est la police judiciaire qui aura le dernier mot. Parce que cette police judiciaire, c'est la police de l'infraction. Et l'infraction, c'est, dans sa consommation, eh bien, la condamnation de son auteur à une sanction pénale. Ça plombe un peu, là.
Peut-être une dernière question avant de conclure.
Moi, j'avais vraiment un aspect qu'on n'a pas beaucoup développé, c'est l'inféodation du pénal à l'administratif. C'est vraiment un phénomène très état d'urgence. Il faut savoir que dans l'état d'urgence, on avait des personnes assignées à résidence ou perquisitionnées, etc. Et quand il n'y avait pas de respect de l'assignation à résidence, on les passe en tribunal correctionnel. Mmh. Et donc, on a un phénomène où je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le droit pénal parle toujours en dernier cas. Le cas le plus connu, c'est David P., parce qu'il a fait deux QPC, et donc deux fois, il a obtenu la remise en cause du délit de consultation de site. Et ça, c'est vraiment un cas classique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient de prison, qui a été radicalisé en prison, qui est assigné à résidence dès le début de l'état d'urgence, qui, à un moment donné, a une perquisition administrative dans laquelle on découvre des vidéos djihadistes, donc il est à nouveau pénalisé, et il est mis en prison. Il fait sauter la QPC, donc il est libéré. Et au moment où il est libéré, on lui dit « t'as été radicalisé en prison », puisqu'il a croisé Bégal en prison, et on l'assigne à nouveau à résidence. Donc il est quasiment assigné tout l'état d'urgence. Et là, à un moment donné, il se rend à la piscine dans la commune d'à côté, et quand on est assigné à résidence, on n'a pas le droit de quitter le périmètre de sa commune. Et donc il est à nouveau poursuivi et à nouveau mis en prison. Et donc vous voyez ici, on voit sur l'état d'urgence ce lien entre la mesure administrative de police administrative qui a un caractère prédictif, préventif, et l'utilisation du droit pénal. Donc on dit souvent que le juge judiciaire est évincé dans l'état d'urgence. C'est pas vrai, c'est le JLD qui est évincé pendant l'état d'urgence, c'est le juge civil. Mais le juge pénal a une fonction complémentaire à celle...
Parce qu'il s'est reconnu cette compétence aussi.
Ça a été reconnu par l'article 13 de la loi de 1955. Et c'est des phénomènes qu'on constate aussi, par exemple, en droit des étrangers. Pour connaître le droit des étrangers, on a exactement les mêmes phénomènes de droit pénal qui vient en cas d'échec des mesures administratives d'éloignement, par exemple.
Peut-être un mot pour conclure de chaque intervenant ? Ah, une question ? Monsieur ?
Ma question s'adresse indifféremment aux quatre intervenants. L'article L228-1 du Code de la sécurité intérieure, pour ne citer que lui, parle de raisons plausibles, de raisons sérieuses, pardon, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses, alors que la formule classique du Code de procédure pénale, et on le connaît, c'est les raisons plausibles. Et je voulais savoir quelle différence ou quel rapprochement vous faites entre raisons sérieuses et raisons plausibles.
Je vais faire mon procureur, je ne sais pas.
Ah, si, si. Non, c'est... Alors, c'est... Elle est géniale, votre question. Je vais vous répondre. C'est l'essence même du travail juridictionnel, administratif ou judiciaire. Et c'est sans doute ce qui est l'essence même d'un état de droit. C'est-à-dire que nous utilisons des standards juridiques. Dieu merci. En d'autres termes, À votre réponse, je répondrai, c'est l'office du juge. Et parce que c'est l'office du juge, c'est lui qui fixe le curseur. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un état de droit où le législateur, malgré, je dirais, la surconsommation de textes qui aboutit à chaque fois à enrichir nos codes, fait que nous devons à chaque fois remettre en question nos acquis, c'est le fait que la loi utilise des standards, parce qu'en toute hypothèse, ces standards, c'est au juge de le remplir. C'est comme si vous posiez la question, mais vous avez raison de la poser, attention, hein, c'est très pertinent. Dites-nous ce qu'est la faute. Dites-nous ce qu'est la bonne foi. L'essence même d'un état de droit, c'est justement de dire à son juge, fixez le curseur. Si le législateur devait préciser toutes les conditions et tous les critères, est-ce que vous êtes certain que nous serions encore dans un état de droit ? Merci.
Moi, j'aurais une réaction plus rapide. C'est parce que c'est rédigé par des administrativistes, pas par des pénalistes. Et c'est fait pour le préfet et le ministre de l'Intérieur, puisque c'est eux qui prennent la décision sous le contrôle du juge administratif. Et, bon, je sais que le JLD intervient pour les visites décisives, finalement, mais le JLD de Paris, hein, c'est pas un autre JLD, il ne faut pas exagérer. Mais donc c'est ça, hein, c'est la rédaction administrativiste, tout simplement. Ce qui est important dans ces rédactions, c'est le terme qui est utilisé dans la loi de 55. À l'origine, ce n'était pas le comportement. Hein. Qui figurait. Et il y a une dilution de ce qui peut être appréhendé en assignation à résidence par la référence au comportement.
On va peut-être conclure. Mais on va faire dans l'ordre inverse que le début. Monsieur Camus.
Alors, mes propos conclusifs seront justement de vous affirmer qu'il ne faut pas qu'il y ait de conclusion. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de conclusion parce que ce qu'a fait apparaître les échanges qui ont été les nôtres, c'est montrer à quel point la matière est évolutive. Et cette évolution, c'est le mouvement du droit. Et je crois que ce mouvement, il est absolument essentiel. Je renvoie en cela aux travaux les plus modernes hein, sur les nouveaux paradigmes explicatifs du droit ou par rapport à ce que pouvait être votre apprentissage en première année sur la pyramide de Kelsen, de vous dire aujourd'hui que les nouvelles théorie des jeux ou théorie de l'autopoïèse, selon que vous soyez de l'école de Louvain-la-Neuve ou selon que vous soyez de l'école allemande, vous montrent aujourd'hui que ce droit est extrêmement évolutif, avec la théorie des cercles qui s'entrecroisent. On voit bien qu'une même situation peut faire l'objet de régimes juridiques distincts en fonction de l'objectif qui est poursuivi. Et donc, cela signifie que nous sommes bien dans un droit qui reste un droit, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous nous interrogeons en conscience et en permanence au regard d'une part de ses applications pratiques, mais surtout, et c'est le plus important, de ses principes directeurs. Merci.
Monsieur Lacan.
Je pense que pour les étudiants, effectivement, ce qu'il est intéressant d'en retenir, c'est que sur ces questions-là, il n'y a pas de solution définitive, immuable et intemporelle. Donc les questions, elles évoluent dans le temps, les contextes évoluent dans le temps, les réponses apportées par le législateur, elles évoluent également dans le temps. Et tout l'intérêt du métier de juriste, alors qu'on soit professeur, qu'on soit juge judiciaire, qu'on soit juge administratif, tout l'intérêt, c'est que à chaque fois, il faut, quelle que soit sa fonction, se reposer les questions de fond. Quels sont les principes juridiques qu'on entend faire respecter ? Et ça, c'est vraiment l'intérêt fondamental, je crois, des professions juridiques. C'est que on est dans un questionnement permanent, il n'y a pas de réponse définitive et absolue, mais on est dans le cadre d'un dialogue argumenté, fondé sur le contradictoire. Et je crois que quand on est étudiant en droit, c'est aussi par rapport à vos perspectives de carrière quelque chose à prendre en considération, parce que on ne rencontre pas ça dans tous les métiers que l'on peut exercer après avoir terminer ses études.
Monsieur Slam.
Moi, je vais prendre un peu le contre-pied, mais c'est mon boulot d'universitaire. Hein. Moi, je pense qu'on est dans une période de restriction des libertés, d'extension des pouvoirs, et que l'état d'urgence est un révélateur de ça. Les affaires dont je parlais avant, elles sont avant l'état d'urgence, hein, Dieudonné et compagnie. Et on est dans une période dans laquelle il y a une extension des pouvoirs de police et une restriction des libertés de manière corrélative, et on s'y habitue. Alors le contexte, c'est normal, on a subi des attentats terroristes, il fallait réagir à ces attentats, et heureusement les pouvoirs publics l'ont fait. Mais sauf qu'on le fait au prix d'une transformation profonde des rapports entre les droits, et de transformation du droit pénal. Là, je ne suis pas spécialiste, mais je vois Marc Toulier et Olivier Kahn qui pourront vous en parler, donc qui a un caractère de plus en plus préventif, qui apprend de plus en plus des situations, mais aussi transformation de la police administrative. Les arrêts, enfin, on n'a pas assez parlé, mais on est vraiment dans une logique de prédiction de la commission d'infraction à travers le droit administratif. Et ça serait, vraiment, l'analyse des décisions de l'état d'urgence le démontre très, très clairement. Et donc là, il y a quelque chose, il y a des frontières qui sont en train de sauter et des frontières qui mettent en cause des principes libéraux. Heureusement, notre état de droit repose sur des principes la liberté, c'est la règle. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie de plus en plus et on accepte de plus en plus des restrictions de police qui sont justifiées par la sécurité, qui sont justifiées par la prévention des infractions et de l'ordre public, mais qui, au fur et à mesure, on prend souvent l'image de la grenouille dans l'eau chaude. Eh bien, il faut se méfier, l'eau est en train d'augmenter au fur et à mesure, il faut qu'on réagisse par rapport à cette situation-là et qu'on soit vigilant à la protection des libertés.
Et donc ma conclusion, ça ne vous étonnera pas, sera la même que celle de M. Slama. M. Camus disait qu'une même situation peut être soumise à deux régimes différents. Moi, ça me pose une difficulté, puisque, en tant qu'enseignant, ce que j'essaye d'enseigner à mes étudiants, c'est que unité, identité de nature, identité de régime, et que, par définition, en fonction de la nature des choses, un régime est appliqué. Et en disant qu'une même situation peut être soumise à deux régimes différents en fonction de la finalité, cela ouvre la porte, à mon sens, à une instrumentalisation qui est un moyen, finalement, de contourner les règles dans un but politique qui peut être noble, et sûrement qu'il est la plupart du temps, mais qui parfois peut être animé par d'autres intentions. Et il me semble que cette situation est source d'insécurité juridique, porte atteinte aux libertés individuelles, et c'est pour cette raison qu'il me semble impératif de restaurer cette distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Je vous remercie. Thank you.